Aujourd'hui, nous continuons notre étude du livre de Josué. Les premiers cinq chapitres du livre racontent ce que Dieu faisait pour préparer le peuple d'Israël pour la conquête de Canaan. Ça fait déjà des semaines. Cinq chapitres, nous ne sommes pas encore... Le titre, prendre possession de la vie promise. Nous n'avons pas encore commencé de prendre possession de la vie promise, de la terre promise. Mais parce que Dieu, il est en train de préparer son peuple pour le faire. Nous avons tiré six principes de leur exemple pour nous aider à prendre possession de la vie qui nous attend en Jésus-Christ. Donc voici les six principes que nous avons déjà vus. C'est des choses que Dieu fait pour préparer son peuple. D'abord, soyez attachés à la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose pour Josué et pour le peuple. Ils doivent connaître la parole de Dieu et le mettre en pratique s'ils voulaient réussir dans la conquête de Canaan. Deuxième principe, soyez attachés au peuple de Dieu. Nous avons besoin les uns les autres. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons tout seuls pour prendre possession de la terre ou prendre possession de la vie que Jésus nous promet. On a besoin de nos frères et de nos sœurs. Ça, c'est le plan de Dieu. Principe numéro 3, connaissez votre ennemi. Il y a un ennemi, il y avait un ennemi en Canaan. Il y avait les villes fortifiées et les hommes, ils disent, guerriers féroces qui étaient là. Mais nous aussi, de notre côté, nous avons un ennemi, et c'est le diable qui veut nous empêcher de prendre possession de la vie en Jésus-Christ. Mais c'est bon, nous n'avons pas seulement un ennemi, mais nous avons aussi un allié. C'est qui? C'est Dieu. Nous avons vu que notre Dieu est un Dieu puissant, un Dieu qui est là avec nous dans le combat, qui est là avec nous pour nous aider à prendre en possession cette vie promise. Le cinquième principe, fixez votre regard sur Dieu et non sur le problème. Nous avons parlé d'Israël et Josué, ils étaient là, le côté l'est du Jordan, en train de regarder ce fleuve qui était qui déborde ses rives à cause de la saison de pluie et tout. Et Josué, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu a dit à Josué, fixez votre regard sur l'arche de l'Alliance. L'arche était le symbole de Dieu et tout ce que Dieu était. Donc, ne pas regarder le problème, la rivière, mais regarder Dieu. Et la semaine dernière, nous avons vu le sixième principe, souvenez-vous des merveilles de Dieu. Et nous avons vu comment ils ont construit, érigé, Josué, un tas de 12 pierres de l'autre côté, le côté l'ouest du Jordan, pour comme un souvenir de tout ce que j'ai, le grand miracle que Dieu a fait pour traverser la rivière. J'ai un petit souci concernant l'application que je vous ai donnée la semaine dernière. Parce que, bon, en fait, tous ici, c'est bon observer les ordonnances de baptême et Sainte-Seine, demander le Seigneur de rappeler des merveilles de Dieu dans la vie, donc réfléchir tout ce que Dieu a fait. Mais c'est cette partie ici, être créatif pour se rappeler des merveilles. Et j'ai pensé parler de peut-être un tableau d'art pour vous rappeler, où j'ai vous ai montré certaines choses que Dieu utilise pour me rappeler. Par exemple, un petit caillou que je porte parfois dans ma poche. C'est juste un rappel. Mais mon souci est que peut-être ça peut être compris comme un objet de magie ou un objet qui peut devenir une idole. Et loin de ça, je vous en assure. Donc, cette partie, peut-être juste laisser à côté parce que je ne veux pas vous donner cette impression qu'on porte les choses pour que Dieu puisse être avec moi. Je me souviens quand nous étions au plateau Betake, Thierry et moi, pour travailler, et c'était un lieu vraiment reculé. Et Parfois, bon, on disait maman là-bas, donc je ne sais pas si ça c'est. Je ne veux pas donner l'impression que c'était un titre de respect. Donc, les mamans, ils ne parlaient pas le français, mais ils avaient leur Bible foncée pour mettre sur leur tête, comme ça, comme un objet qui peut leur protéger. Bon, mais ce n'est pas ce que nous cherchons ici. Donc, c'est juste un rappel. Donc, OK, j'espère que c'est clair. Et si vous avez une question, vous pouvez me voir. Mais alors, nous avons ces principes, mais ce qui est essentiel, souvenez-vous des merveilles de Dieu. Comme ils ont vu ce que Dieu a fait, ils devaient constamment, dans le campement de Gilgal, leur base d'opération militaire, ils devaient aller et partir. Revenir à cet endroit pour et regarder ces pierres pour être encouragés dans leur foi. Voilà. Bon. Aujourd'hui, nous allons regarder ce passage en Josué chapitre 5, versets 1 à 12. Et nous voyons Israël, les Israélites ont déjà traversé le Jourdain. Ils sont campés à Gilgal, mais ils n'ont pas encore commencé la conquête. Est-ce que je peux te demander de lire ce passage pour nous?
Lorsque tous les rois des Amoréens qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. À cette époque-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis une nouvelle fois les Israélites. Josué se fit des couteaux de pierre et circoncit les Israélites sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les hommes, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Or, tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, tandis que le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. L'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leurs ancêtres de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place, et Josué les circoncit. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là.
Ok, merci. Donc, mettez-vous maintenant à la place des habitants de Canaan, tous ces ennemis d'Israël. Un jour, vous êtes sur les rives du Jourdain, peut-être pour laver les vêtements, pour aller à la pêche, et vous voyez de l'autre côté du Jourdain cette vaste armée de peuple, plus de 2 millions de personnes, de gens. Et donc, ça serait quelque chose d'effrayant, mais vous êtes reconforté parce qu'au moins, vous voyez qu'il y a la grande rivière qui déborde cette saison, ses rives, il est fort, et donc ce n'était pas possible pour ce peuple de traverser. Donc, vous savez que, ah, bon, au moins, il y a quelques mois pour se préparer pour ce bataille qui vient. Donc, vous courez à Jéricho pour informer le roi et tous les autres de ce que vous avez vu. Et de loin, avec les autres dans la ville, vous regardez ce peuple effrayant. Mais puis, à votre terreur, vous entendez un bruit et vous voyez que les eaux du Jourdain sont soudainement coupées. Et voilà un grand passage sec. Et maintenant, le peuple commence à traverser la rivière. ou dans, sur le passage. Donc, tous les habitants fuient dans la protection de leur grande ville fortifiée. Et comme le verset 1 nous dit, vous perdez courage et vos esprits sont abattus de peur. Les Israélites auraient été hyper motivés par le miracle du Jourdain. Et c'est le moment pour attaquer pour eux. Selon la sagesse militaire, ils ont l'avantage. Ils ne doivent pas attendre et donner à leur ennemi le temps de réfléchir et de se préparer. Mais la pensée de Dieu n'est pas toujours la pensée de l'homme. Dieu sait que les Israélites ne sont pas prêts à prendre la terre. Il y a encore une préparation finale. Israël ne serait pas prêt à combattre son ennemi jusqu'à ce qu'il observe le rite de la circoncision et la fête de la Pâque. Et ce sont deux ordonnances sacrées qu'ils devaient respecter. Ils ne vivaient pas en ce moment dans une relation droite avec Dieu. Ils devaient régler leur vie avec Dieu avant qu'ils puissent prendre possession de la terre promise. Nous, de notre part, nous pouvons apprendre de l'exemple de Josué et les Israélites. Si nous voulons prendre possession de la vie promise, nous devons aussi vivre dans une relation droite avec le Seigneur. Prions avec moi. Seigneur, aide-nous de regarder ce passage, à comprendre ce que ce passage nous dit et le mettre en pratique. Parle-nous. Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit Saint qui est là. Nous avons cette promesse. Alors, parle à nous et encourage-nous. Transforme-nous, Seigneur. Je prie en ton nom. Amen. Regarde de nouveau au verset 2 à 8, le deuxième paragraphe là. Et nous voyons, il y a un problème dans la vie d'Israël. Il y a quelque chose qui va bloquer le peuple d'Israël de prendre possession de la terre promise. Et c'est que les hommes d'Israël n'étaient pas circoncis. L'alliance, l'ancienne génération des hommes qui sont morts dans le désert, étaient circoncis, pourtant qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Mais cette nouvelle génération n'était pas. C'était important parce que la circoncision était le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. L'alliance était une promesse inconditionnelle entre Dieu et son peuple. La promesse de cette alliance a été donnée à Abraham pour la première fois en Genèse chapitre 12. On n'a pas le temps pour regarder, mais c'était donné d'abord à Abraham. Elle était ratifiée, affirmée, confirmée par le sacrifice très solennel en Genèse chapitre 15. Et c'est là que nous voyons que Dieu a parlé encore avec Abraham pour confirmer cette promesse. Et à un certain moment, Dieu a demandé à Abraham de prendre des animaux pour faire un sacrifice. Et Abraham, il a coupé. C'est comment ils ont fait les alliances dans cette époque. Ils ont coupé en deux parties ces animaux, une partie ici et l'autre partie là. Et quand nous voyons que Dieu a plongé Abraham dans un sommeil vraiment profonde, mais à ce moment, Dieu a passé entre les deux parties des sacrifices avec un feu et pour faire une promesse au peuple que je serai votre Dieu. Je fais une alliance avec vous. Et ce qui nous voyons là comme une image, C'est comme il disait, celui qui a fait ses alliances de cette façon, c'était ce qui est arrivé à ces animaux, que ça m'arrive si je ne garde pas ma parole, si je ne garde pas cette alliance avec vous. Donc c'était une alliance qui était faite avec Abraham. Elle était aussi affirmée par la marque de circoncision maintenant au Genèse chapitre 17. Donc pour meilleure compréhension de notre texte ce matin, j'ai pensé que ça serait bien de regarder ensemble ce passage aussi. Remarquons plusieurs choses dans ce passage concernant au sujet de l'alliance. D'abord, nous voyons que c'est au verset 7 et 9 et 10, ici, 7, 9 et 10, c'était une alliance perpétuelle que Dieu faisait avec Abraham et de toute sa descendance. Cette alliance n'était pas seulement pour Abraham, mais c'était pour tout le peuple de Dieu. Ce n'était pas seulement pour Moïse, à le moment d'Exode, pour la première génération qui est sortie d'Égypte. C'était pour toute la descendance d'Abraham, tout le peuple de Dieu. Donc c'est perpétuel, qui doit être gardé pour toujours dans cette ancienne alliance. C'était une alliance aussi relationnelle. Au cœur de l'alliance est la relation entre Dieu et son peuple. Notez encore verset 7. Et oui, j'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, aux filles des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je serai ton Dieu. Thierry et moi, en venant ce matin dans la voiture, nous avons parlé de cet aspect de l'alliance. C'est incroyable, n'est-ce pas? Que le Dieu de tout l'univers, qui est au-dessus de toutes choses, il vienne vers nous pour dire que je te fais une promesse. Je te fais une promesse. Je serai ton Dieu. Par l'alliance, Dieu a fait une promesse irrévocable qui est souvent résumée dans la Bible par cette phrase: « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Le peuple d'Israël pouvait dire avec confiance: « J'appartiens à Dieu et il m'appartient. » Ça, c'est ce que Dieu a voulu faire avec son peuple. Il a voulu qu'ils avaient cette confiance qu'il était leur Dieu. Et ils étaient son peuple. C'était aussi une alliance accompagnée par un magnifique héritage. Nous voyons verset 8. « Je te donnerai à toi et tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. » Avec cette alliance, il y avait une grande promesse. C'était une promesse de prendre en possession le pays de Canaan. La terre promise sur le Canaan serait donnée au peuple d'Israël par Dieu. Nous avons vu déjà, si je reviens dans le premier verset de ce livre de Josué, il dit au verset 3, « Tout lieu que vous foulerez la plante de votre pied, je vous le donne. » Et il continue, il donne une promesse, il promet de donner cette terre à Israël. Ça fait partie de l'alliance. Cette terre sera un endroit où le peuple de Dieu pourrait vivre dans la sécurité, dans la prospérité, à condition qu'ils observaient l'alliance entre eux et Dieu. Ce qui est important de noter est que cette promesse est réservée uniquement au peuple d'Israël. Ce n'était pas pour tout le monde. Ce n'était pas pour n'importe qui. L'héritage, la bénédiction de l'alliance était réservée au peuple de Dieu, ceux qui étaient en alliance avec lui. C'était aussi une alliance marquée par la circoncision du prépuce du sexe masculin. J'avoue que hier, j'aimerais bien parler avec quelqu'un pour que j'ai tous les mots corrects en français. Donc j'espère que j'ai bien... c'est une chose de regarder dans le dictionnaire. C'est mieux de demander à quelqu'un qui parle français couramment pour me dire. Mais c'était une alliance marquée par la circoncision du prépuce du sexe masculin. Nous voyons maintenant au verset 10 à 13. Quand il dit, voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que ta descendance après toi, tout garçon parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis et ce, à chacune de vos générations, qu'il soit né chez toi ou qu'il ait été acheté à un étranger en dehors de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né chez toi et celui qui t'a acheté. Mon alliance sera inscrite dans votre chair comme une alliance perpétuelle. Un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Elle était la marque permanente sur le corps de l'homme. Dès que c'est fait, c'est fait. Donc, on ne peut pas retourner l'autre. Non, je ne veux pas. C'est permanente. Comme l'alliance était permanente. L'homme prend la marque parce qu'il était le représentant et le responsable devant Dieu pour toute la famille. C'est intéressant que la marque de circoncision fût sur la partie la plus intime et vulnérable de son corps. Comme l'homme protège et garde bien cette partie de son corps, il se peut que c'était un rappel qu'il doit garder bien son alliance avec Dieu. C'était une marque qui serait vue par sa femme chaque fois qu'ils s'engagent dans la relation la plus intime et sacrée de leur couple. La circoncision sera un rappel constant que l'alliance s'applique aussi à leurs enfants, qui sera le fruit de leur union. C'était la marque de convenant de l'alliance pour les hommes, mais aussi pour, même si ce n'était pas dans leur corps, pour tout le peuple d'Israël. C'était aussi une alliance qui devait être cette alliance que Dieu a fait avec Abraham, avec son peuple. C'était une alliance qui devait être obéie. Notez au verset 14, un homme incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans son corps sera exclu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc ce n'était pas une option. Oui, je veux, je ne veux pas. C'était une loi, une obligation. Chaque nouvelle génération devrait entrer dans cette relation d'alliance avec Dieu. La marque de la circoncision était un engagement, une consécration de leur vie à Dieu. Et c'est une déclaration permanente que Dieu sera leur Dieu et il sera son peuple. C'était pour dire, Dieu règne sur moi. Je te donne les droits sur ma vie, Seigneur. Et quand nous lisons au verset 5 de ce chapitre, que les hommes d'Israël n'étaient pas encore circoncis, nous comprenons qu'ils étaient dans un état de désobéissance par rapport à l'alliance. Leur relation avec Dieu n'était pas correcte comme il aurait dû l'être. Alors, la situation d'Israël était grave. Puisque le peuple était dans un état de désobéissance au sujet de l'alliance, il n'était pas prêt à faire la conquête. Il faisait face à un grand ennemi sans l'assurance que Dieu serait avec eux et qu'il leur donnera la terre parce que la promesse était réservée uniquement aux participants de l'alliance. Et en ce moment, ils n'en étaient pas en règle avec Dieu dans l'alliance. D'ailleurs, selon les instructions données à Moïse en Exode chapitre 12, verset 48, tout homme qui n'était pas circoncis ne pouvait pas célébrer la Pâque. La deuxième chose que nous allons voir dans ce passage. C'était interdit si on n'était pas circoncis. C'était donc absolument nécessaire que ce problème soit résolu avant qu'Israël entreprenne la conquête. Heureusement, nous voyons au verset 8 que tous les hommes de la nation d'Israël ont été circoncis. Leur position devant Dieu a été réglée. Dieu le confirme maintenant au verset 9 ici. Dieu a dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, ou fils de génération. Non? Attendez. Oh, sorry. Oh oui, merci. voilà. Verset 9. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui j'ai fait rouler loin de vous la honte d'Égypte. Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup que je peux dire par tout cela. Le mot Gilgal, le nom de leur campement, veut dire rouler. Et donc, je pense que vous dites un jeu de mots, de quelque sorte. Mais ce qui est important à voir est que, comme ils étaient en règle avec Dieu, maintenant, leur honte, leur péché, leur désobéissance étaient roulés et ils étaient dans maintenant une relation correcte et droite devant Dieu. Par cet acte, le peuple d'Israël était entré dans cette relation. Ils étaient assurés que Dieu était leur Dieu. Ils étaient son peuple. Car c'était vrai, ils savaient que Dieu serait avec eux dans la conquête et ils pouvaient compter sur lui pour son aide et pour prendre la possession de la terre promise. Cette histoire nous apporte des leçons importantes. Il y a deux choses qui sont venues dans mon esprit au moins. D'abord, cette histoire nous rappelle que la vie abondante que Dieu nous promet est réservée à ses enfants. Donc la première étape pour s'emparer de la vie promise est de donner votre vie à Jésus. Tout commence là, par là. Heureusement, l'invitation de devenir enfant de Dieu est ouverte à toute personne, quel que soit son arrière-plan, son niveau de vie, son âge, son sexe, sa culture ou couleur de peau. C'est ouverte à nous tous. Jean 1:12 nous dit que toute personne qui accepte Jésus et qui croit en son nom, il leur donnera le droit de devenir enfant de Dieu. Et quand Dieu est notre Père et nous faisons partie de sa famille, c'est en ce moment que nous pouvons commencer à profiter de la vie abondante en Jésus-Christ. Pas avant. La vie qui nous promise est pour ses enfants. Donc la question que je vous pose, avez-vous déjà pris cette première étape? On peut assister à l'église. Mais si on n'a pas la nouvelle naissance, si on n'est pas dans l'alliance, la nouvelle alliance avec Dieu, tout commence par là. Donc il faut être sûr parce que c'est en ce moment maintenant que vous pouvez vivre et expérimenter cette vie qui nous attend en Dieu, en Jésus-Christ. Pour vous qui sont déjà enfants de Dieu, vivez dans la réalité de votre position en Christ. Ne permettez rien de bloquer votre relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas nous emparer de la vie que le Père Céleste veut nous donner si nous ne faisons pas sa volonté. C'était la même chose pour le peuple d'Israël. Ils ne pouvaient pas avoir cette confiance que Dieu était avec eux, qu'ils vont recevoir la promesse s'ils vivaient dans une relation qui n'était pas droite avec leur Dieu. Nous devons suivre l'exemple des Israélites en faisant ce qui est nécessaire pour être dans une bonne relation avec notre Père Céleste. Alors la question que je vous pose, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque votre relation avec Dieu ce matin? Je sais pour Thierry et moi, de donner un exemple sur le plan terrestre, entre elle et moi, si nous avons une dispute, il y a la tension dans mon cœur et dans son cœur. Et nous ne sommes pas heureux en ce moment. Notre relation est tendue. Et c'est la même chose avec notre Dieu, et la même chose avec nous. Il faut vivre, on ne peut pas expérimenter la vie heureuse dont Dieu nous parle. Si on est en tension, on n'est pas dans une bonne relation avec lui ou avec notre frère, notre sœur. Donc, réglez nos vies avec Dieu. Regardez nos vies. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être changé, confessé, laissé? Bon, maintenant regardons encore dans ce passage. Regardons verset 10 à 12. Le peuple d'Israël, nous allons parler maintenant de l'exemple de Pâques. Le peuple d'Israël devait observer la Pâque avant de faire la conquête. Ça, c'était la volonté de Dieu. Ils étaient prêts d'aller faire la conquête, mais ils devaient attendre et maintenant, ils avaient le droit parce que tout l'homme était circoncis à Israël. Donc, ils avaient le droit pour le faire, mais ils devaient célébrer la Sainte Cène. En lisant la Bible, nous avons l'impression que ça faisait des années depuis que le peuple d'Israël a célébré cette fête importante. Nous avons l'impression qu'ils n'ont pas célébré la fête pendant le temps qu'ils étaient au désert. Selon ce qui est rapporté dans la Bible, nous voyons seulement deux fois avant ce moment que la fête a été célébrée. La nuit où ils ont quitté l'Égypte, la première fois, pour célébrer le Pâques. Et puis, un an plus tard, quand ils étaient au pied de Mont Sinaï. Normalement, selon les instructions de Dieu, normalement, ils devaient célébrer le 14e jour du premier mois de chaque année cette fête. Mais ils n'ont pas fait. Comme Israël devait obéir à Dieu en ce qui concerne la circoncision, ils devaient aussi obéir à Dieu en ce qui concerne la Pâque. Leur vie n'était pas en règle avec Dieu. À la Pâque, les Israélites commémoreraient leur délivrance de l'esclavage en Égypte. Vous pouvez lire l'histoire. En fait, je pense que j'ai... Non? Bon. Attendez, je pense que... Non? Voilà. On va mettre là. Nous pouvons lire l'histoire de la Pâque ici dans ce chapitre. À la fête de Pâques, le peuple était rappelé que Dieu sauve avec puissance. Et en plus de cette merveilleuse vérité, la fête a été aussi un rappel de la fidélité de Dieu. Nous voyons tout ce qui s'est passé pendant la Pâque. C'était la nuit. Nous voyons Dieu a dit à Moïse... verset 7, on prendra de son sang. Donc, le 10e jour, ils commencent. Ils ont un agneau pour garder. Le 4e jour, ils devaient le sacrifier. Ils prennent un peu de ce sang pour le mettre sur les deux poteaux et le lenteau de la porte de leur maison. C'est un type de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Les deux mains sur la croix et la tête sur la croix. Et nous voyons que c'est un type de préfiguration de ce que Jésus a fait pour nous. Et maintenant, après, il dit au verset 11, quand vous mangerez, vous aurez une ceinture à taille pour vos sandales et aux pieds et votre bâton en main. Donc, il devait manger rapidement cette repas. Et il dit, explique les choses au verset 12. Cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Mais au verset 14, vous vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête à l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription pour vous au fil des générations. Verset 17, vous célébrerez la fête des pains sans levain, car c'est précisément ce jour-là que j'aurai fait sortir vos armées de d'Égypte. Donc nous voyons, comme je disais, nous voyons à ce moment, en célébrant cette fête, qu'ils ont vu, ils étaient rappelés que Dieu sauve avec puissance. Il y a un bon cantique que nous chantons, Dieu sauve avec puissance. Ils étaient rappelés de cela. Et aussi, ils étaient rappelés du fait que Dieu était fidèle dans tout ce qu'il faisait. Nous voyons au verset 25 que une fois entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera conformément à sa promesse, vous observerez ce rite. Et lorsque vos enfants vous demanderont que signifie ce rite pour vous, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui s'est passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et sauvé nos familles. Donc, lorsque vous entrez dans le pays, il devait célébrer cette Pâque. Donc, c'était un rappel de la promesse de Dieu. Dieu est puissant et Dieu est fidèle. Il fait tout ce qu'il dit. Donc, imaginez l'importance de cette célébration pour le peuple d'Israël en ce moment. Dieu sauve avec puissance. Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Face à la grande et difficile mission devant eux, ils auront besoin de la célébrer pour être prêts pour la conquête, pour avoir la confiance de procéder. Le jour de Pâques était toujours suivi par 7 jours de la fête des pains sans levain. Nous voyons ici au verset 15 et aussi dans notre texte après, versets 11 et 12. C'était pour remercier Dieu. La fête de Pâques était une journée, et le lendemain, pendant 7 journées, ils n'avaient pas besoin de travailler. C'était un temps de célébrer le fait des pains sans levain et manger. Donc, ils disent au verset 11, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, et des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La main cessa le lendemain de la Pâque et au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israélites n'auraient plus de main et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Quelle joie d'avoir mangé le premier pain repas dans la terre promise. Pendant 40 ans, Dieu était avec eux pour pouvoir la nourriture. Et maintenant, dès qu'ils sont là, ils mangent le premier repas dans le pays de Canaan, dans le pays, la terre promise. Le main, il s'arrête. Ce n'est plus là. Mais ils mangent ce qui est là. Et comme Dieu était avec eux pendant les 40 ans, malgré le problème, malgré leur désobéissance, sa grâce était infinie et ils ont reçu de lui. Et maintenant, ils commencent à manger dans la terre. Ils pouvaient compter alors sur Dieu. C'était très important pour Israël de faire une pause et de prendre le temps de célébrer la Pâque à la fête du pain sans levain. Ils auraient pu se précipiter dans la conquête. Ils ont pensé, ah, peut-être c'est le moment. Alors que leurs ennemis étaient paniqués et démoralisés, mais ils avaient besoin de célébrer d'abord la Pâque pour garder une relation droite avec Dieu. Par cet acte d'obéissance, le peuple a été mieux préparé pour leur mission à venir. C'était un moment pour rappeler que Dieu était de ce qui était Dieu et de ce qu'il a fait pour eux. C'était un moment aussi pour renouveler leur engagement de l'Alliance. Le rite de circoncision et la célébration de la Pâque dans l'ancienne Alliance, ce sont les prototypes du baptême dans la Nouvelle Alliance et aussi de la Sainte Cène. Il y a beaucoup que j'ai voulu dire et développer, mais ce n'est pas possible étant donné le temps que nous avons. Mais par observation de la Sainte-Seine au moins, nous pouvons garder une relation droite avec Dieu. Comme ils ont passé et gardé, célébré le Pâques, nous pouvons célébrer aussi la Sainte-Seine pour garder une relation droite avec notre Dieu. Donc, nous apprenons de Josué et du peuple d'Israël l'importance de garder une relation droite avec Dieu si nous voulons prendre possession de la vie promise en Jésus-Christ. Où es-tu? Peut-être ça c'est, tu peux oublier tout ce que je viens de dire, mais je vous pose la question. Ça c'est l'essentiel vraiment de ce message. Où es-tu dans ta relation avec Dieu? Franchement. Es-tu dans une relation droite avec ton Dieu? Ou non? Et l'exemple que nous prenons d'Israël est que nous devons vivre dans une relation avec toi. Mais il y a la grâce, comme nous voyons dans la fête de Pâques, il y a la grâce du Seigneur pour nous purifier, pour nous accepter. Sa grâce est toujours infinie, sa grâce est toujours là. Seigneur, sois avec nous. Parle à nous. Nous voulons être un peuple qui est sûr de notre alliance avec toi, que tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Nous voulons te laisser régner sur nos vies. Et avec, dans cette alliance, cette vérité, nous pouvons être sûrs que tu seras avec nous tous les jours de nos vies. Nous pouvons être sûrs que tu vas nous donner cette vie promise comme tu as donné à Israël. Sois avec nous, prépare-nous pour vivre dans cette alliance. Je prie en ton nom, Seigneur.